Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Houston au Texas se prépare à accueillir ce mardi les funérailles de George Floyd. Hier, un dernier hommage public a été rendu dans cette ville à cet Africain-Américain de 46 ans dont la mort a déclenché une grande vague de colère et de manifestations, non seulement aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde. Le policier accusé de son meurtre, Derek Chauvin, a comparu hier pour la première fois devant la justice à Minneapolis. La juge a fixé à 1 million de dollars sa caution libératoire sous condition. Ici à Washington, plusieurs élus démocrates se sont symboliquement agenouillés lundi entre les murs du Capitole avant de dévoiler une proposition de loi visant à réformer la police. Le président Donald Trump a déclaré lors d'une table ronde à la Maison-Blanche avec des responsables des forces de l'ordre: « Nous n'allons pas couper les fonds de la police, nous n'allons pas démanteler la police », une allusion aux appels à ce sujet et à une décision du conseil municipal de Minneapolis. Son futur adversaire à la présidentielle de novembre, Joe Biden, qui s'est dit de son côté contre toute idée de ce genre, a lui rencontré hier en privé les proches de George Floyd à Houston. Un homme qui se décrit lui-même comme étant un leader du groupe raciste Ku Klux Klan a comparu lundi devant un tribunal américain en Virginie pour avoir lancé sa voiture contre les personnes qui protestaient pacifiquement après la mort de Floyd, a annoncé la justice. Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé hier que la pandémie de coronavirus s'aggravait dans le monde, mettant en garde contre tout laisser-aller. Bien que la situation en Europe s'améliore, dans le monde, elle s'aggrave, a-t-il déclaré. La pandémie a fait au moins 404 245 morts pour plus de 7 millions de cas dans le monde. Depuis son apparition en décembre en Chine, les États-Unis ont recensé 110 900 décès, suivis du Royaume-Uni, du Brésil, de l'Italie et de la France. Après presque 11 ans de croissance, les États-Unis sont désormais en récession, a indiqué lundi un comité qui fait référence. Et le monde entier traverse désormais sa pire récession depuis 150 ans, selon la Banque mondiale. Parallèlement, la ville de New York, qui a été durant des semaines l'épicentre de l'épidémie, a entamé lundi un déconfinement progressif, limité dans une première phase à la construction et au secteur manufacturier. En Afrique du Sud, le coronavirus a fait plus de 1000 morts et contaminé plus de 50 000 personnes, a indiqué hier soir le ministre de la Santé. Freiné pendant 2 mois par un strict confinement de toute la population, l'épidémie s'est accélérée après que le gouvernement a décidé le mois dernier de desserrer l'étreinte sur l'économie en récession avant le début de la crise sanitaire. Le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, a annoncé ce lundi qu'il allait porter plainte contre les auteurs d'une série d'articles l'impliquant dans le trafic de drogue en Côte d'Ivoire, paru sur le site Vice. Selon M. Bakayoko, la prétendue enquête de 2 journalistes va, je cite, à l'encontre de ses principes de vie et sont de nature à jeter le discrédit sur son pays. L'Afrique reste une priorité pour l'Union européenne, a déclaré le commissaire en charge de la gestion des crises hier à Kinshasa, en compagnie du ministre belge des Affaires étrangères et de son homologue français. Ce dernier a salué des progrès dans la transition en cours en République démocratique du Congo. C'était à l'occasion du lancement d'un pont aérien acheminant matériel médical et humanitaire de l'UE vers la RDC. L'Union européenne a rappelé le commissaire européen a annoncé un total de 3,25 milliards d'euros pour aider le continent face au coronavirus. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La suite de nos informations. Au Mali, le front anti-IBK s'est encore consolidé avec de nouvelles adhésions. Une nouvelle manifestation est annoncée malgré l'intervention de la communauté internationale pour renouer le dialogue. Hier, les initiateurs de la manifestation de vendredi dernier étaient devant la presse. De Bamako, correspondance de Kassim Traoré.
D'entrée de jeu, le coordinateur de Espoir Malikoura a fait savoir que le regroupement d'associations et partis politiques, initiateur du rassemblement du 5 juin dernier, se renforce. Cheikh Oumar Sissoko.
La Troïka, on n'en parlera plus. La Troïka a été rejointe par des centaines d'organisations et de partis politiques. C'est pour cela qu'à l'évidence, nous devons, dans notre regroupement, donner un autre nom. Et c'est le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. C'est parce que c'est le but qui demande sa légitimité.
Une assemblée générale de tous les membres du mouvement du 5 juin est prévue le jeudi prochain.
Nous continuons la lutte jusqu'à notre objectif final, la démission de Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Il n'y a rien à dire par rapport à cela. Nous allons continuer et prochainement nous allons encore sortir avec beaucoup plus de monde que le vendredi 5 juin, mais c'est qu'il faut que nous travaillions ensemble, ensemble, ensemble.
Avant cette conférence de presse, il y a eu une intervention de la communauté internationale pour renouer le dialogue. Une plateforme pro-pouvoir annonce de son côté pour vendredi prochain une marche de soutien aux institutions de la République selon son porte-parole Aman Touré du Serpent. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La vaccination anti-Ebola a débuté dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo où la 11e épidémie déclarée il y a une semaine a fait 6 morts. Nathalie Barge.
La vaccination a débuté à Mbandaka vendredi pour le personnel soignant et les contacts avec des cas confirmés, a indiqué le ministre de la Santé, Eteni Longondo, précisant que près de 10 000 doses ont été commandées. La 11e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a été déclarée le 1er juin à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Selon le ministre, il y a eu 12 cas et 6 décès. La précédente épidémie entre mai et juillet 2018 avait fait 33 morts. Une autre épidémie d'Ebola est en cours dans la région de Beni, dans le Nord Kivu. Elle a totalisé 2280 décès depuis août 2018. Plus de 300 000 personnes ont été vaccinées dans l'est de la RDC, où les doses de deux vaccins non homologués ont été utilisées.
Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie reviennent à la table de négociation aujourd'hui. C'est pour tenter d'aplanir les divergences sur la construction du méga barrage éthiopien sur le Nil. Abdourahmane Dia.
La rencontre entre les ministres de l'irrigation et de l'eau des trois pays aura lieu par visioconférence, a précisé le ministère soudanais de l'irrigation dans un communiqué. Trois observateurs des États-Unis, de l'Union européenne et d'Afrique du Sud seront présents. Après 9 années de blocage, les États-Unis et la Banque mondiale parrainent depuis novembre 2019 des discussions pour tenter de trouver un accord entre les trois pays. Le grand barrage de la Renaissance doit devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. En mai, l'Égypte avait accepté de reprendre les négociations sur le remplissage du réservoir du barrage pour parvenir à un accord juste, équilibré et global. Le même mois, le Soudan a rejeté l'accord proposé par l'Éthiopie concernant ce remplissage du réservoir en arguant de problèmes techniques et juridiques. Le Soudan et l'Égypte craignent que ce barrage de 145 mètres de haut ne restreigne leur accès à l'eau lorsque le réservoir commencera à être rempli. Le Nil, qui coule sur quelques 6000 km, est une source d'approvisionnement en eau et en électricité essentielle pour une dizaine de pays d'Afrique de l'Est.
La Minute Éco, Nani Talani.
En Libye, la production du brut a repris à Al-Sharara, le plus grand champ pétrolier du pays, qui avait été fermé il y a des mois par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Il commencera à produire 30 000 barils par jour jusqu'à ce qu'il atteigne sa pleine capacité dans 90 jours. Les autorités espèrent que ce redémarrage sera la première étape pour relancer le secteur pétrolier et gazier et empêcher un effondrement économique. Al-Sharara fournit près d'un tiers de la production brute du pays. Sa fermeture a coûté plus de 5,2 milliards de dollars au trésor libyen. Les exportations algériennes ont baissé de 24,89%, passant à 7,62 milliards de dollars durant les trois premiers mois de l'année en cours, contre 10,14 milliards de dollars l'an dernier. Les importations ont chuté de 19,52%. Elles se sont chiffrées à 9,12 milliards de dollars pour le premier trimestre 2020, contre 11,33 milliards de dollars l'an dernier. Pour terminer, American Airlines va supprimer à partir d'octobre 30% des emplois dans les rangs des pilotes et des personnels navigants à cause du coronavirus. Cette cure d'austérité va affecter plus de 5 000 postes sur 17 000 emplois. Elle s'ajoute à un plan de départ volontaire en cours que 39 000 salariés sur les 100 000 que compte l'entreprise ont déjà accepté. La société affirme avoir besoin de réduire ses coûts structurels, les rémunérations et les avantages sociaux.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Il fallait éviter un scandale pour sauver les sponsors de l'athlétisme. L'ancien patron de l'antidopage à la Fédération internationale, le français Gabriel Dolé, a tenté hier d'expliquer ses arrangements avec les règles. Premier jour du procès à Paris pour corruption sur fonds de dopage en Russie. Renvoyé devant le tribunal pour corruption passive, en l'occurrence 190 000 euros de pots de vin présumés perçus entre 2013 et 2014, Gabriel Dolé a voulu minimiser sa responsabilité, assurant avoir cherché un compromis entre l'intérêt supérieur de l'IDESAF et la mise à l'écart d'athlètes russes dopés. L'ancien président de l'IDESAF, Lamine Diak, principal prévenu au procès, m'avait demandé de considérer la situation financière très critique de l'IDESAF et qu'à ce moment-là, avec la liste, ça allait provoquer un scandale qui allait influencer le cours des négociations avec les sponsors et les faire péricliter, a raconté Gabriel Dolé. Il s'agissait donc de ne pas provoquer un scandale, a-t-il poursuivi, assurant n'avoir jamais renoncé aux sanctions. Selon lui, cette gestion raisonnée impliquait de ne pas sanctionner officiellement et publiquement les athlètes, mais d'envisager une suspension officieuse, discrète, qui n'était pas tout à fait celle du règlement. Pourtant, plusieurs des athlètes russes ont pu participer aux Jeux olympiques de 2012 et certains y ont été médaillés. Gabriel Dolé juge qu'il a alors été trahi. Le procès, dans lequel comparaissent 6 prévenus, dont 3 sont absents, se déroule jusqu'au 18 juin. Football et justice toujours. L'audience durant laquelle le club anglais de Manchester City va contester son exclusion pour 2 ans des Coupes d'Europe s'est ouverte devant le tribunal arbitral du sport. L'appel de City conteste la décision de la commission de contrôle financier des clubs, l'excluant pour les 2 prochaines saisons des Coupes d'Europe. Manchester City est épinglé pour avoir surévalué les revenus issus des contrats de sponsoring dans ses comptes portant sur la période 2012-2016. En Algérie, Fahd Al-Fayya, directeur général de l'entente Sétif, et un agent de joueur, Nassim Sadawi, ont été placés en détention préventive pour des soupçons de matchs arrangés. M. Sadawi a été inculpé d'atteinte à la liberté d'autrui, diffamation et enregistrement d'appels téléphoniques sans consentement. Alors que le patron de l'entente Sétif est poursuivi pour marchandage de match, cette affaire a éclaté après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un enregistrement sonore impliquant les 2 hommes. Le directeur général de l'entente Sétif conteste l'authenticité de cet enregistrement, alors que M. Sadawi a affirmé ignorer qu'il était interdit d'enregistrer des conversations téléphoniques. « Mon but était de me protéger et prouver mon innocence dans ce marchandage de match », a-t-il plaidé. Lors d'un match entre le DRB Tadjinané et l'entente Sétif le 12 mai 2018, un opérateur a signalé de nombreux paris atypiques passés sur un score exact avec des mises importantes par rapport aux mises habituelles. La rencontre s'est soldée par une victoire 3-2 du DRB Tadjinané contre l'entente Sétif. Sur les 5 buts, 3 ont été inscrits sur penalty.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 474 de Canal+.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
fin d'aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Segulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, la crise du coronavirus étrangle les promoteurs d'établissements privés à l'arrêt dans le pays depuis plus de 2 mois. Et sans le recouvrement des frais de scolarité, ni l'aide de l'État, beaucoup de structures privées risquent des jours bien difficiles. Constat à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
Les parents d'élèves doivent-ils s'acquitter des frais de scolarité des derniers mois de cours avant la fermeture des établissements suite à la crise du coronavirus? Pour les promoteurs d'écoles privées, cette question ne devrait pas se poser. Isabelle Pemba, vice-présidente du syndicat du personnel des écoles privées.
Il n'y a pas un règlement intérieur qui dit que si les cours sont interrompus, par exemple, par l'État, ils ne doivent pas payer les frais de scolarité.
La position des chefs d'établissement est aussi motivée par le fait que les cours ont quand même été dispensés durant une bonne partie du mois de mars. Mais le débat ne divise pas moins l'opinion. On écoute Alexandre Obian, parent d'élèves.
Bon, quelque part, pour le fonctionnement de leurs établissements, ils peuvent avoir raison parce qu'ils n'ont pas d'autres revenus ailleurs que ce qui revient des frais d'écolage.
Pour Sylvestre Ignaré, les responsables d'établissements ne devraient s'en prendre qu'à eux-mêmes.
On a comme l'impression que l'argent que ces établissements produisent, cet argent-là sert à faire autre chose. Parce que si cet argent était géré pour le bon fonctionnement de l'établissement, je pense qu'on ne serait pas devant de telles situations.
Rien que la seule ville de Libreville et ses environs comptent plus de 500 établissements scolaires privés. Tous sont en difficulté et soumis à un examen de conformité avant un éventuel soutien de l'État. La commission de vérification des différents dossiers a pris ses quartiers dans les locaux du syndicat de l'éducation nationale. Sylvette Mbeng est secrétaire de séance de la dite commission.
Les écoles n'en sont pas à jour. Elles n'ont pas bénéficié des mesures édictées par le chef de l'État. C'est l'occasion de se mettre à jour.
Pendant ce temps, et depuis 2 mois, les enseignants du privé comme Hermione Angué ne reçoivent plus de revenus.
C'est vraiment pénible pour nous qui avons des familles, des enfants en bas âge. Nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas nous nourrir correctement, nous ne pouvons pas payer nos loyers et nous attendons sans réponse.
Interrogé sur les difficultés actuelles des promoteurs d'établissements privés, le ministre de l'Éducation renvoie les plaignants à la réglementation. Pour le professeur Mugiyama Daouda, il y a un cadre qui a été défini pour que dans ce contexte de crise sanitaire, les entreprises qui ont des problèmes pour assumer leurs charges se rapprochent des services compétents mis en place. À partir de ce moment-là, le problème ne se pose plus, a-t-il indiqué lors d'une récente intervention sur un média d'État. Libreville, Ismaël Obianzé, VOA Afrique.
C'est ce lundi que les élèves des classes d'examen ont repris le chemin de l'école au Togo. Dans ce contexte de crise sanitaire, cette reprise des cours devait se faire dans des conditions précises. Pour aider les élèves et le corps enseignant à respecter les gestes barrières, des masques et gels détergents sont offerts aux établissements scolaires. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Pour une meilleure protection face à la pandémie de COVID-19, tous les élèves et le corps enseignant doivent au moins être munis d'un masque, même si le port de masque n'est pas obligatoire au Togo. Le fait que les acteurs du système éducatif n'en portent pas peut constituer un facteur favorisant la propagation du virus à l'heure de la reprise des cours. C'est cette idée qui a conduit les responsables du bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine bâtir à sillonner quelques établissements scolaires. Ils y apportent des masques que le parti produit lui-même et des détergents liquides. Fiacre Atou, secrétaire général adjoint de Bâtir.
La reprise des cours est imminente. Donc nous avons jugé utile de venir en appui au corps enseignant en leur offrant des masques et du détergent pour qu'ils puissent eux-mêmes d'abord respecter les règles barrières en portant les bavettes et en se lavant les mains. Et nous ne pouvons pas protéger les enseignants et laisser les élèves. Donc nous devons penser venir également en appui à nos petits frères qui sont en classe d'examen et qui vont reprendre les cours.
Près de 200 000 masques sont ainsi distribués. Le directeur du collège Saint-Jean-Baptiste de La Salle agréablement surpris d'y considérer dans ce contexte le masque comme un matériel nécessaire pour la reprise. Théophile Dika.
C'était une surprise. Nous sommes en train de nous préparer pour la rentrée et que le matériel cassiné est venu pour nos élèves. Franchement, c'est une réponse à des questions que nous nous posons. Comment allons-nous entreprendre la rentrée? Eh bien voilà, nous avons reçu. Merci de la part de tous les élèves.
À l'annonce de la reprise des cours, au niveau de chaque établissement scolaire, des dispositions sont prises pour faire respecter les gestes barrières, notamment la distanciation physique. Joseph Kodjo-Assafo, directeur du CEG Kekaveli à Lomé.
Nous sommes en train de préparer la rentrée pour que tout se fasse dans le respect des mesures barrières. On a déjà fait la répartition des élèves par classe. Au lieu de 4 classes de 3e qu'on avait, on a actuellement 11 classes de 3e. Et donc, nous avons mis environ 30 élèves par classe afin qu'il y ait la distanciation d'un mètre d'un élève à un autre. Et donc, on devra faire recours à tous les professeurs de l'établissement, qu'ils interviennent en troisième ou pas, pour que les 11 classes puissent suivre correctement les cours.
Dans les établissements scolaires visités, les responsables déplorent l'absence de dispositifs de lavage de mains. Avis est donc lancé. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
En Afrique du Sud, la première puissance industrielle du continent, environ 20% des foyers ont, en temps normal, un accès insuffisant à la nourriture, selon l'Office national des statistiques. Un nombre qui risque d'augmenter encore avec les lourdes conséquences que la pandémie de COVID-19 aura sur l'économie. À Orange Farm, un township en périphérie de Johannesburg, un agriculteur veut multiplier les potagers et renforcer l'autonomie alimentaire. Des détails avec Patricia Huon.
Dans le township semi-rural d'Orange Farm au sud de Johannesburg, Tim Abba est un agriculteur bien connu de sa communauté. Sa petite exploitation agricole est devenue un lieu d'enseignement pour les résidents qui désirent se former aux principes de l'agriculture biologique.
Nous avons cette ferme depuis 5 ans. C'est devenu une académie de formation aujourd'hui pour enseigner l'agriculture à la communauté. Si vous regardez les statistiques, elles sont tellement déprimantes. En Afrique du Sud, plus de 7 millions de personnes vont régulièrement dormir le ventre vide. Les gens ne peuvent pas seulement être consommateurs, ils doivent produire et jouer un rôle dans la chaîne d'alimentation.
En Afrique du Sud, avec les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l'économie, de nombreuses familles sont en difficulté. Grâce à des dons, Tim a lancé le projet Ubuntu et organise des distributions de produits frais. Il en profite aussi pour donner des semences et des conseils et encourager les familles à créer leur propre potager dans leur parcelle. Patricia Kumalo jardine derrière sa petite maison de tôle et de bois. Cette source supplémentaire de nourriture l'a beaucoup aidée pendant le confinement.
J'ai fait un jardin là-bas, juste un petit potager. Ici, il y a des épinards, des tomates, des cacahuètes. J'ai 6 enfants et 2 petits-enfants. Vous voyez, des épinards sont déjà presque tous mangés. On avait des carottes, ça aussi c'est terminé.
L'agriculture urbaine ne peut pas résoudre les problèmes économiques, mais peut faire une différence pour une plus grande diversité de l'alimentation. C'est ce qu'explique le professeur Julian May, directeur du Centre d'excellence pour la sécurité alimentaire de l'Université du Cap Occidental.
Ce type de culture ne va pas faire une différence sur le fait que les gens aient faim ou pas, mais ça va faire une grande différence pour une alimentation plus diversifiée, une alimentation plus nutritive. Donc, si ces initiatives peuvent être perçues comme une goutte d'eau dans l'océan, elles sont importantes car elles permettent aussi aux populations d'avoir un sentiment de contrôle sur leurs sources d'approvisionnement en nourriture.
C'est entre autres pour cette raison que Tim Abba veut voir les potagers se multiplier.
Nous leur donnons 2 paquets de graines, puis une cinquantaine de petits plants, des épinards, des betteraves, un mélange de légumes et 20 kilos de compost. À ce jour, nous avons aidé à créer 855 potagers. Nous essayons de les motiver. Je suis convaincu qu'on peut commencer petit. C'est déjà très bien.
Le fermier espère qu'en dépit des difficultés, certaines familles pourront sortir à terme de cette épreuve avec une sécurité alimentaire renforcée. Patricia Huon, Johannesburg pour VOA Afrique.
Dopage et corruption dans l'athlétisme, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, le Sénégalais Lamine Diack, a comparu hier au tribunal de Paris en France pour être jugé avec son fils Papa Massata Diack et 4 co-accusés de corruption pour protéger des athlètes russes dopés contre des pots de vin. L'affaire a précipité la chute de Lamine Diack, devenu le premier dirigeant non-européen de la Fédération internationale d'athlétisme de 1999 à 2015. Pour une analyse, Yacouba Ouédraogo a joint Bruno Aoyo, journaliste spécialiste du sport africain.
Alors, il est reproché à Lamine Diack en tant qu'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, ainsi qu'à son fils et 4 autres acteurs présumés d'être responsables d'un pacte de corruption pour protéger des athlètes russes. L'IAF demande jusqu'à 24 millions de dommages à intérêts pour les dégâts qui auraient été occasionnés à son image.
Dans cette même affaire de corruption institutionnalisée, la Russie a d'abord été suspendue par le Comité international olympique en 2015, par aussi l'Agence mondiale antidopage. L'IAF aussi avait banni la Russie, mais dernièrement, le Comité international olympique et l'Agence mondiale antidopage sont revenus sur leur décision et avaient réintégré la Russie. Et donc l'IAF reste la seule instance mondiale qui continue de bannir la Russie dans cette affaire. Est-ce que ce ping-pong entre l'IAF, le CIO et l'AMA va profiter à Lamine Diack dans ce procès?
Honnêtement, je ne pense pas parce que les charges requises à son sont très lourdes. Ça va être très compliqué pour M. Diack. Après, en plus, le fait que beaucoup de gens aient très mal digéré qui s'apparente à du dopage organisé en Russie va jouer. Donc je pense que ça ne va pas malheureusement l'aider. Il a été lâché par tous ses adjoints et tous ceux qui ont gouverné avec lui. Je pense que pour M. Diack, malheureusement, ça va être très compliqué.
On le sait, Lamine Diack a dirigé la Fédération internationale d'athlétisme de 1999 à 2015. Il a réussi à élever les recettes de télévision et de sponsoring jusqu'à 1 milliard d'euros pour l'I2AF. Est-ce que finalement, ce procès pour corruption ne vient pas ternir tout cela?
Forcément, ça va ternir son bilan. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais tout à fait les coups des franges quand on est dans ce genre d'organisation. C'est clair qu'il y a beaucoup de gens, de vice-présidents, de membres de comités décisionnaires qui gravitent autour, mais on n'a jamais les coups des franges. Donc, il faut toujours un maximum de précautions quand on prend des décisions. Et on l'a vu dans plus d'autres instances. À partir du moment où vous retrouvez en difficulté ou qu'une décision paraît douteuse, c'est tout votre honneur et tout votre parcours qui est remis en question. Donc, les conclusions du procès nous le diront, mais c'est clair que Lamine Diack, malheureusement, son nom dans l'histoire de l'athlétisme international est désormais sali.
On le sait, Lamine Diack n'est pas poursuivi seul dans cette affaire. Il y a également son fils, Papa Massata Diack, ancien conseiller marketing de l'I2AF. Il y a également Habib Cissé, avocat de Lamine Diack, tous impliqués, présumés dans cette affaire. Est-ce que cela finalement ne va pas porter un coup à la gestion de l'Afrique, on va dire, de la Fédération internationale d'athlétisme de 1999 à 2015? On le rappelle, c'était la première fois qu'une personne non européenne dirige cette institution.
Ils sont tous présumés innocents. Après, à partir du moment où les Russes sont impliqués, comme les Américains ont fait au niveau de la FIFA pour le football en tentant de reprendre les mains, je pense que les Américains ne seront pas très loin. Après, au niveau de l'image, c'est sûr que pour l'IAF, c'est catastrophique.
Bruno Aoyo, journaliste, spécialiste du sport africain, joint à Paris. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Edressa Seludia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.